Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu. Nous continuons notre étude de cet évangile. Voyons la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et nous sommes donc arrivés au chapitre 4. Et nous allons lire les versets 1 à 12. Matthieu chapitre 4. Nous allons lire les versets 1 à 12. Donc commençons la lecture au verset 1, voici donc la parole de Dieu. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Et nous arrêtons la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes donc arrivés à l'étape suivante, si on peut dire, dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Mais on va commencer avec deux illustrations. Imaginez que l'on entende deux hommes d'affaires discuter entre eux. Le premier dit « Cette petite récession n'est pas entièrement négative. Ça nous donne un peu de répit, un temps pour évaluer l'entreprise et rationaliser notre organisation. Le problème, c'est l'incertitude. Quand est-ce que cela va finir? Est-ce que les affaires vont empirer avant que la situation ne se rétablisse? » Et le deuxième répond, « C'est vrai. Si je savais que ça durerait une autre année, je saurais comment réduire les dépenses. Je déteste penser aux mises à pied. Je ne peux pas me permettre de perdre de bonnes personnes, surtout si les affaires vont reprendre bientôt. Je préférerais savoir que nous avons encore 8 mois un peu juste que de vivre dans cette incertitude, si seulement on savait. » Deuxième illustration, on croise une femme qui marche rapidement. Elle a un air un peu consterné. Et elle se dit, « Mais j'ai regardé Julie droit dans les yeux. J'ai crié, je l'ai appelée par son nom. Mais elle m'a peine regardé. Est-ce qu'elle est fâchée contre moi? Est-ce qu'elle est préoccupée? Est-ce qu'elle est contrariée par ce que j'ai dit la semaine dernière? Je préférerais savoir qu'elle est fâchée plutôt que de me demander si quelque chose ne va pas, si seulement je savais. » Bien entendu, on ne peut pas savoir quand les affaires vont reprendre ou pourquoi une personne que l'on ne connaît nous ignore. Mais notre nature humaine veut savoir. Et on veut savoir maintenant. Le désir de savoir, le désir de connaître est quelque chose de bon en général. Mais il peut devenir un désir pécheur, une tentation d'être omniscient, c'est-à-dire de connaître toute chose comme Dieu, de tout savoir. Il n'y a peut-être pas de tentation plus fondamentale que le désir d'avoir la même connaissance que celle que Dieu possède, avec bien entendu les autres pouvoirs aussi. Déjà dans le jardin d'Éden, Le serpent a incité Adam et Ève à manger de l'arbre de la connaissance. Il y a dit, cette parole, Genèse 3, verset 5, « Tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Et en arrivant aux tentations auxquelles le Seigneur Jésus-Christ est soumis, on va voir qu'elles sont parallèles aux tentations d'Adam et Ève, de plusieurs manières. Lorsque le diable exhorte, invite Jésus à sauter du temple, par exemple, c'est aussi une tentation qui touche la connaissance. Si Jésus saute, et s'il atterrit sans mal, il saura, il connaîtra, selon Satan, que le Père prend soin de lui. Et donc la première chose que nous voulons noter, que nous devons souligner, le premier point, c'est que nous devons adapter notre conception de la tentation. Très souvent, on pense à la tentation comme quelque chose qui se voit de loin, quelque chose qui arrive, qui apparaît dans des couleurs, on dirait, très flashy. Une tentation de ce genre, par exemple, ce serait de voir une liasse de billets de 100 euros tomber de la poche de quelqu'un, puis de se demander ce qu'on doit faire. Ou bien c'est d'offrir une bière à un alcoolique. Ou c'est un patron qui va dire à son personnel qu'il ne va pas regarder de près les dépenses du personnel. Et on rencontre ce genre de tentation flashy, comme on dirait. Mais la Bible et l'expérience suggèrent que la plupart des tentations sont plutôt de couleur grise. On ne les voit pas. On ne les voit pas arriver. On ne les voit pas de loin. Quelqu'un un jour a dit « Toutes les décisions sont prises sur la base de preuves insuffisantes. » Et si c'est exact, et ça a l'air exact, mais qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient après? Face à une prise de décision, la plupart des gens vont rassembler autant de preuves que possible pour se rapprocher le plus possible de l'omniscience de Dieu, de la connaissance de toutes choses, de tous les facteurs, pour pouvoir prendre une décision. Dans une société qui chérit l'information, l'éducation, ça peut sembler étrange de remettre en question la recherche du savoir, la recherche de la connaissance. Puisque la connaissance est bonne, puisque toute vérité est la vérité de Dieu, puisque Dieu nous donne à la fois la connaissance et qu'il a implanté en nous un désir de savoir. Comment le fait de vouloir savoir, de vouloir connaître, peut-il être mauvais? La pensée même semble étrange. Comment est-ce que le désir de savoir, le désir de connaître, peut-il être une forme de tentation? Mais si on s'arrête, on verra que la soif d'une connaissance illimitée, le fait de tout savoir, révèle les marques essentielles de péché. La tentation nous invite toujours à prendre quelque chose de bon et à le pervertir. Celui qui est tenté de voler croit que la richesse est bonne en soi. Si on est tenté de commettre l'adultère, c'est parce que le plaisir est bon en soi. Si on est tenté de tuer les méchants, c'est parce que la justice est bonne en soi. La tentation de savoir comme Dieu, de tout savoir, déforme le désir légitime de connaissance, de savoir. La connaissance est bonne, mais il n'est pas bon de connaître toutes les affaires de nos voisins ou tous les conseils de Dieu. En Deutéronome 29, verset 29, nous lisons ceci, « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de ces lois. Nous devrions aspirer à la connaissance qui convient aux hommes et aux femmes, pas à connaître comme Dieu connaît, pas à vouloir la connaissance de toutes choses. Mais presque toutes les tentations offrent quelque chose qui est intrinsèquement bon. Ça peut être la nourriture, ça peut être la richesse, la sécurité, l'autorité, la connaissance. Mais le mal réside dans le fait que l'on prend aux dépens de quelqu'un d'autre. On prend ce qui appartient à quelqu'un d'autre. L'adultère n'est pas un péché parce que le plaisir est mauvais, mais l'adultère prend le conjoint d'une autre personne. Et c'est en cela qu'il est mauvais. Et presque par définition, la tentation offre quelque chose de bon, que ce soit le plaisir, le confort, la sécurité. Là où rien de bon n'est offert, il n'y a pas de tentation. Par exemple, si je n'aime pas les artichauts, je ne peux pas être tenté de les manger parce que je n'y trouve aucun plaisir, ils ne m'attirent pas. Une personne normale ne va pas être tentée de manger des araignées ou des serpents parce que ce n'est pas quelque chose que l'on aime. La tentation de manger ne se produit que si quelque chose a bon goût ou alors que je suis en train de mourir de faim. Si manger de la pizza était un péché, la plupart d'entre nous seraient tentés. Si Dieu interdisait la pizza, qu'est-ce qu'on ferait? On essaierait de contourner cette interdiction. On changerait un petit peu la recette, on pourrait l'appeler autre chose, comme Bozzoli par exemple, un nom à consonance italienne, pour satisfaire nos désirs. S'il y a quelque chose d'attrayant ou de désirable dans chaque tentation, s'il n'y avait pas cette attraction, comment est-ce que cela pourrait nous tenter? Et c'est la même chose pour le Seigneur Jésus. Il a été tenté en nous. Si on dit le contraire, on va nier son humanité, sa pleine humanité. On va aussi nier l'Écriture qui dit qu'il a été tenté comme nous. En toutes choses. Mais lui n'a pas commis de péché. Hébreux 4, verset 15. Alors, quelle est la nature de la tentation de Jésus? C'est le deuxième point. Comme on a dit, la tentation invite un homme ou une femme à prendre quelque chose qui en soi est bon, mais à prendre cette chose quand la personne n'a pas le droit à cette chose ou ne peut pas à ce moment-là utiliser cette chose de manière correcte. La tentation commence par quelque chose qui est bon et vient pervertir cette chose. Et Satan a tenté le Seigneur Jésus avec de bonnes choses, avec la nourriture, avec la connaissance, en l'invitant à les prendre pour lui-même à ce moment-là. Même si Satan n'avait pas un droit absolu sur ces choses. Puisque la nourriture, la connaissance, l'honneur sont des choses qui sont bonnes en soi. Et que Jésus est un homme, entièrement homme, il était sensible à la tentation de prendre ces choses pour lui. Mais ce n'était pas le bon moment. En disant cela, nous ne remettons pas en cause la nature sans péché de Jésus, mais on affirme son humanité. Et c'est cela qui est remarquable. Le Fils de Dieu s'est fait pleinement, entièrement homme. Et il a été tenté comme nous en toutes choses. Après 40 jours de jeûne, on peut très bien imaginer que le Seigneur Jésus avait besoin, le texte nous le dit, il avait faim. Il avait besoin de manger quelque chose. Mais est-ce qu'il allait prendre la nourriture d'une manière intéressée? Changer ses pierres en nourriture, c'est-à-dire utiliser ses pouvoirs miraculeux pour satisfaire sa faim, ce serait promouvoir l'intérêt personnel au-dessus du plan de Dieu. Et de même, sauter du temple serait forcer Dieu à effectuer un miracle pour le protéger, dans l'intérêt de sa sécurité personnelle, et se soumettre à Satan. Ce serait gagner du pouvoir, mais sans souffrir. Satan a offert quelque chose de bon dans les trois tentations. Et c'est pour ça que ces choses ont mis le Seigneur Jésus-Christ à l'épreuve. Il a été tenté comme nous. Encore une fois, vous ne pouvez pas me tenter de manger des artichauts si je ne les aime pas. Ils ne sont tentants que s'ils ont bon goût pour moi, ou que je suis en train de mourir de faim. Le désir de quelque chose de bon est essentiel à la tentation, même pour le Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme. Alors, troisièmement, quels sont les éléments de la tentation ? Nous avons lu que le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert pour être tenté. Verset 2, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Premier élément, donc, c'est la tentation de posséder des choses matérielles au mauvais moment. Jésus n'a pas rien mangé depuis 40 jours. Il avait faim. Il savait qu'il pouvait utiliser ses pouvoirs de façon égoïste pour transformer ses pierres en pain. Il a refusé. Il était sujet à la tentation, et la tentation était grande. La tentation suivante est encore plus directe. Verset 5, le diable le transportant dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la tentation de connaître la volonté de Dieu. Le fait de se jeter pour que Dieu le porte était une tentation de forcer Dieu à agir pour prouver que Dieu se souciait de lui. « Jette-toi du temple, dit Satan. » Et Satan insinue que lorsque Jésus atterrirait sans encombre sur le sol, il saura, il connaîtra que Dieu se soucie de lui. Et ça aurait pu être une chose à garder en mémoire pendant tout son ministère sur terre, pendant toutes ces années difficiles. Ça aurait pu être une merveilleuse preuve de l'amour du Père. Mais le désir légitime d'avoir une assurance dégénère dans le vice de vouloir la connaissance divine, comme Dieu le Père connaît toutes choses. Cette tentation est de savoir pour pouvoir être en contrôle. Et le résultat de la tentation, si le Seigneur Jésus-Christ avait succombé à cette tentation, serait que Jésus, en tant qu'homme, vivrait par la connaissance et non par la foi. Augustin met en garde contre une vaine envie de savoir. Il dit, il y a un désir vide de posséder la connaissance. Un désir de voir quelque chose de nouveau, d'étrange, pour satisfaire une curiosité morbide. Étudier est une vertu, mais la curiosité vaine est un vice. Nous n'avons pas toujours besoin de savoir ou besoin de voir. Parfois, nous devrions nous contenter de vivre par la foi et non par la vue. Nous devrions nous méfier du danger de rechercher une connaissance comme la connaissance de Dieu, l'omniscience de Dieu, ou une connaissance qui nous laisse penser que nous n'avons plus besoin de Dieu. La troisième tentation est la plus conflictuelle. Verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Et se prosterner devant quelqu'un, et en particulier devant le diable, est une autre tentation d'atteindre un but légitime, de manière bon marché. Le Seigneur Jésus-Christ va posséder un jour la gloire des royaumes du monde, et ce sera légitime. Mais il atteindra cette maîtrise sur toute chose d'une autre manière, par sa mort sur la croix, par sa résurrection du tombeau, en étant déclaré fils de Dieu avec puissance. Il gagne la puissance et l'honneur par la croix, pas en s'inclinant devant Satan. Et on peut voir les parallèles avec nos propres tentations. Dans ce cas, on voit le Seigneur Jésus être tenté par un but légitime qui, selon Satan, peut être atteint facilement par des moyens corrompus. On est régulièrement confronté à la même classe de tentations dans des cas qui sont plus ou moins importants. Quand on est en retard, par exemple, qu'il faut absolument arriver à l'heure prévue, et tenter d'enfreindre le code de la route. Et quand il n'y a pas de radar, c'est encore mieux. Quand on doit faire une vente, on va exagérer un petit peu les avantages du produit. Quand on pense que l'on doit faire une impression, on va dramatiser notre histoire avec des détails plus ou moins fictifs. La tentation du Seigneur Jésus nous parle, mais on doit se rappeler qu'avant qu'elle nous édifie, elle s'est réellement produite. L'Esprit Saint a conduit le Seigneur Jésus dans le désert pour être tenté. Et Satan est venu à lui. Après 40 jours de jeûne, Satan a suggéré à Jésus de transformer des pierres en pain, de sauter du temple, de s'incliner, de se prosterner devant lui. Satan existe. Et même si le monde le prend à la légère, Satan incite les gens à pécher. Mais la façon dont il s'approche de Jésus nous enseigne des leçons sur lui, mais aussi sur le Seigneur Jésus-Christ. Et on va les voir dans quelques instants. C'est intéressant de noter qu'il n'y a aucune foule humaine, aucune foule n'est présente, n'est témoin de ce qui se passait là dans le désert. Pourtant, le destin de la race humaine reposait sur le résultat de cette confrontation. Jésus en a été le seul témoin, mais il a raconté cette confrontation à ses disciples pour qu'ils puissent en enregistrer la signification pour nous. Le quatrième point, le moment de la tentation de Jésus. Et c'est assez logique que Satan vient tester et tenter Jésus à ce moment de l'histoire. Matthieu nous a dit, et on l'a vu, que Jésus est un homme juif sur le plan humain. Il est fils d'Abraham, fils de David, on l'a vu dans la généalogie. Il est aussi fils de Dieu. Il est aussi appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Au chapitre précédent, une voix du ciel vient dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et donc, avant que Jésus ne se lance dans son ministère, son identité est testée, mise à l'épreuve. Satan était heureux de venir tenter Jésus. Mais n'oublions pas que Dieu le Père est aussi l'auteur de cette épreuve. Jésus a été conduit dans le désert par l'Esprit Saint. Rappelons-nous que la parole de Dieu nous dit que Dieu teste aussi son peuple. Et un même événement peut être soit un test, soit une tentation. Dieu ne nous conduit pas à la tentation, dans le sens où il ne veut pas que nous tombions, selon Jacques 1, versets 13 à 15. Mais Dieu vient nous mettre dans des situations qui révèlent notre caractère. Quand Jacques dit que Dieu ne nous tente pas, il signifie que Dieu ne veut pas, il ne nous incite pas à faire le mal, mais il vient sonder notre caractère dans le but de nous prouver. comme on le dit, une mer calme n'a jamais fait un bon marin. On devient plus fort en affrontant, en passant des tests. Et pour cette raison, le Père a envoyé son fils dans le désert pour être tenté par le diable. Il a réussi tous les tests, il a répondu à toutes les tentations. Et on apprend beaucoup sur le Seigneur Jésus-Christ. La première chose que l'on apprend, c'est qu'il est le nouvel Adam, le deuxième Adam. Il est l'homme fidèle. La tentation de Jésus récapitule l'épreuve à laquelle Adam et Ève ont été confrontés lorsqu'ils étaient dans le jardin, qu'ils étaient les représentants de la race humaine. Et ils ont échoué à leur épreuve. Et tous les humains qui ont suivi ont échoué jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Dans Genèse 3, verset 1 à 6, le serpent a séduit Ève avec des fruits qui paraissaient désirables, une connaissance qui semblait désirable. Vous connaîtrez comme Dieu. Le fruit de l'arbre défendu était agréable à l'œil. Alors Ève et Adam l'ont pris. Et cette tentation représente ce désir humain pour connaître des choses qui sont attrayantes. Encore une fois, je rappelle, on ne peut pas être tenté par quelque chose qui nous dégoûte. Si Dieu nous disait « Tu ne mangeras pas d'huile de foie de morue », alors la plupart d'entre nous seraient ravis. On pourrait même demander que Dieu donne plus de commandements de ce genre parce qu'ils sont faciles à suivre. Mais si Dieu interdit la crème glacée, on ferait face à une tentation douloureuse. Et compte tenu de sa privation extrême, Jésus a certainement désiré le pain plus qu'Adam et Ève ont désiré le fruit de l'arbre. Mais Jésus a suivi le principe qu'il n'utiliserait pas les pouvoirs ou les privilèges de sa divinité à son avantage. Il a renoncé. Il a renoncé à soi. Et là, on pense à ce passage de Philippiens chapitre 2, les 11 premiers versets. Adam et Ève étaient également tentés par la connaissance, tout comme le Seigneur Jésus-Christ. Le serpent a dit que s'ils mangeaient le fruit, les yeux s'ouvriraient. Ils seraient comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Genèse 3, verset 5. Une telle connaissance semblait désirable. Et ils l'ont saisie pour eux-mêmes. Encore une fois, la connaissance en elle-même est bonne. Mais Jésus a compris ce que Adam et Ève n'ont pas fait. Certaines sortes de connaissances peuvent être désirables, mais elles sont vaines. Jésus a refusé de saisir cette connaissance pour lui-même. Lorsqu'ils étaient tentés, Adam et Ève pensaient sûrement qu'ils prenaient leurs propres décisions. Mais en jugeant entre la voix de Dieu et la voix du serpent, ils ont commencé leur chute. En pesant la parole de Dieu contre la parole du serpent, ils se sont placés sur le trône au-dessus de Dieu. Et dès qu'Ève a interrogé Dieu, elle a commencé à s'incliner devant le serpent. Et en dernière analyse, la plupart des tentations se terminent par une épreuve radicale. Devant qui allons-nous nous incliner? Le péché délibéré est un refus de nous incliner devant Dieu. C'est déjà aussi un agenouillement partiel devant Satan. Mais Jésus a résisté au péché auquel nous succombons. Le grand romancier russe Alexandre Solzhenitsyn a été un écrivain pendant des années avant de découvrir à l'âge de 55 ans ce qu'il était censé écrire. Et ne pas savoir quoi faire de nos talents de nos énergies est une épreuve. Et beaucoup d'entre nous aimeraient savoir ce que nous devrions faire. Mais la vie est vécue en allant en avant. Et on la comprend en regardant en arrière. Et par conséquent, on devrait travailler, veiller, prier, attendre et voir ce qui émerge de la providence de Dieu. On est tous sujets à la tentation. Si on n'est pas tenté à chercher la connaissance, alors ce sera peut-être la tentation opposée, le fatalisme ou la paresse mentale. La tentation de vouloir savoir guette, par exemple, les théologiens qui veulent savoir toutes sortes de choses. Quel genre de génitif est-ce que c'est? Est-ce que c'est objectif? Est-ce que c'est subjectif? J'ai besoin de le savoir. Est-ce qu'il y a un référent secondaire pour cette prophétie? Quel est le plus biblique, le plus efficace, le plus réformé? Est-ce que c'est l'apologétique factuelle ou l'apologétique présupposée? Est-ce qu'il est approprié d'entreprendre des études canoniques? Toutes sortes de questions. Les experts estiment que nous devons savoir ces choses. Les responsables d'église ont ce genre de questions. Ils ont aussi d'autres questions beaucoup plus pratiques. Qui est le meilleur conseiller pour cette affaire? Comment est-ce que je peux mieux motiver l'Assemblée à s'engager dans plus de services? Est-ce que cet homme fera un bon ancien ou pas? Mais la recherche de la connaissance, même de la connaissance biblique, peut nous conduire à faire confiance à cette connaissance, plutôt qu'à faire confiance à Dieu lui-même. Il y a une soif de connaissance qui peut être empreinte d'orgueil et de vanité. Les tentations ou les idoles qui se rapprochent le plus de la piété peuvent aussi nous éloigner de Dieu. Il y a une apparente obéissance à la volonté de Dieu qui nous éloigne du Seigneur. Il y a une connaissance de la vérité de Dieu qui peut nous éloigner de lui. On a des choses qu'on veut savoir. Où dois-je aller à l'université? Est-ce que je vais épouser quelqu'un? Qui? Que nous réserve l'avenir de cette amitié? Est-ce que j'aurai des enfants? Est-ce qu'ils seront en bonne santé? Est-ce qu'ils seront heureux? Est-ce qu'ils seront obéissants? Mais on ne devrait pas exiger la connaissance ou connaître toutes choses quand il est temps de vivre par la foi. Quand quelqu'un se demande peut-être comment on peut savoir quand la poursuite légitime de la connaissance devient une poursuite pécheresse de la connaissance. La poursuite de la connaissance est pervertie quand il y a plusieurs facteurs. Tout d'abord, quand notre ignorance nous met en colère, ou bien quand on s'entend dire « je dois savoir », ou alors quand on considère la possibilité de faire des choses insensées ou immorales pour obtenir une réponse, ou alors quand on ne peut pas se concentrer, ou quand on ne peut pas dormir à cause de notre question, ou quand on fulmine à cause des réponses que l'on n'aime pas, qu'ils nous ont donné à notre question. Et on peut aussi se demander pourquoi nous voulons savoir. Est-ce que c'est pour mieux servir Dieu, pour mieux aimer nos voisins, ou est-ce que c'est pour rendre ma vie plus facile? Si nous savons, notre foi sera-t-elle plus profonde, ou est-ce que nous aurons besoin de moins de foi? La connaissance est bonne. Mais le désir de savoir peut supplanter le désir de prier, le désir de dépendre de Dieu. Et tout comme le Seigneur est bien plus qu'un sergent instructeur de l'armée qui aboie ses ordres, il est plus qu'un enseignant qui distribue des informations. Il est le bon berger. Et il nous dirige en donnant la quantité de connaissances, la quantité de savoir dont nous avons besoin. Et c'est donc à lui que nous devons regarder. Deuxièmement, donc premièrement, il est le deuxième Adam, le nouvel Adam. Deuxièmement, on apprend qu'il est le seul vrai Israélite. C'est la deuxième leçon. Les tentations de Jésus nous rappellent les tentations d'Israël dans le désert et nous renvoient à ces tentations dans le désert. Mais là où Israël a échoué, le Seigneur Jésus-Christ a passé à cette tentation. En répondant aux trois propositions de Satan, le Seigneur Jésus-Christ cite trois fois la réponse de Moïse concernant les péchés d'Israël dans le désert. Et juste, entre parenthèses, il y a un principe d'interprétation ici. Quand le Nouveau Testament cite l'Ancien Testament, il faut se rappeler que l'auteur s'appuie sur le contexte plus large que simplement le verset qu'il cite. Et donc, pour comprendre le point que le Seigneur Jésus-Christ fait, il faut comprendre le point que Moïse fait dans l'original. Tout d'abord, il y a la tentation de la nourriture. Le Seigneur Jésus-Christ repousse cette tentation de transformer les pierres en pain en citant le verset de Deutéronome 8, verset 3. Il le cite au verset 4. Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Quand Moïse a passé en revue les années d'Israël dans le désert, il a réprimandé Israël pour s'être rebellé contre le Seigneur. Dans un cas extrême de « Qu'est-ce que vous avez fait pour nous ces derniers temps ?» Exode 16 nous dit « Toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. » Et cela s'est passé presque immédiatement après leur sortie du pays d'Égypte. Et le peuple continue, Exode 16, verset 3. « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété ? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Moïse, Aaron et le Seigneur lui-même ont considéré cela comme une insulte. Et pourtant, dans sa grâce, le Seigneur a fait pleuvoir de la nourriture du ciel pour le peuple d'Israël. Mais même cela n'a pas satisfait le peuple qui a fini par se plaindre que la manne était quelque chose de trop fade. Mais Moïse dit que Israël avait une leçon à en tirer. Le Seigneur donne à son peuple de la viande le soir et du pain le matin. Exode 16, verset 8. Et même s'il fait pleuvoir de la nourriture du ciel, elle ne satisfera pas, car l'homme ne vit pas de pain seulement. Pour trouver une satisfaction dans cette vie, nous avons besoin de la parole de Dieu, de la nourriture qui vient de Dieu. Et Jésus savait cela. Il pouvait regarder au-delà de sa propre faim physique, au-delà de son désir de pain. Il pouvait refuser de prendre le pain qui était bon en soi, mais qui n'était pas le sien à ce moment-là. Et de cette façon, il a passé l'épreuve là où Israël a échoué. Il ne vivait pas pour une satisfaction physique. Et c'est en cela qu'il est le seul vrai Israélite. Combien de personnes vivent pour les biens physiques, pour les biens matériels, et sont profondément malheureux. Un propriétaire d'une grande maison, avec une belle voiture, ou voire même plusieurs voitures, ne prend aucun plaisir dans ces choses. La prospérité matérielle ne peut pas garantir le bonheur. Quoique la vie nous apporte, le chrétien peut savoir que la parole de Dieu peut interpréter ce que la vie nous apporte. Et nous ne penserons pas « je dois avoir cela ». Nous ne demanderons pas à nos biens matériels de fournir ce que Dieu seul peut donner. Nous pouvons jouir des bénédictions matérielles pour ce qu'elles sont. Des créations de Dieu, dont le but est d'être une bénédiction secondaire. La première bénédiction est de le connaître et de nous nourrir de lui. La tentation de la nourriture. Deuxièmement, il y a la tentation de la connaissance. Lorsque Satan a exhorté Jésus à sauter du temple, c'était la tentation de gagner la connaissance dans le mauvais sens. Est-ce que Dieu va prendre soin de moi si je saute du temple? Le lien entre le saut potentiel et la connaissance peut être très fin si on n'a pas l'arrière-plan de l'Ancien Testament. Le Seigneur Jésus-Christ a répondu à Satan en disant, verset 7, il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Cette phrase vient de Deutéronome 6, verset 16, où elle se trouve dans un paragraphe qui ordonne à Israël de craindre, de suivre, de servir le Seigneur. Mais Deutéronome 6, verset 16, vient de Exode 17, verset 1 à 7. Et encore une fois, c'est peu de temps après la sortie d'Égypte. Les Israélites n'avaient pas d'eau. Ils se sont disputés avec Moïse en disant « Donnez-nous de l'eau à boire !» Exode 17, versets 1 et 2. Moïse a répondu « Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Le peuple a grogné. « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ?» Et ils étaient sur le point de lapider Moïse. Moïse a prié et le Seigneur a donné le pouvoir de frapper le rocher à Horeb et d'en tirer de l'eau. Et la dernière phrase interprète l'événement pour nous. Exode 17, verset 7. Moïse donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, qui veut dire « tentation et querelle ». Parce que les enfants d'Israël avaient contesté, parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Pourtant, ils avaient vu le Seigneur séparer la mer rouge. Ils l'avaient vu faire pleuvoir la manne du ciel. Mais ils voulaient savoir ce qu'il avait fait dernièrement pour prouver qui il était. Ils voulaient, ils ont exigé de savoir. Et de savoir maintenant, de savoir tout de suite. Et leur demande est absurde, ils ont vu tellement de choses, tellement de signes. Est-ce qu'un autre signe pouvait les satisfaire? Mais que ce soit logique ou non, quand ils ont exigé la preuve de l'attention de Dieu pour eux, ils l'ont mis à l'épreuve, comme si Dieu était responsable devant eux. Mais le Seigneur Jésus-Christ a refusé de tenter Dieu, de tester Dieu, ou de demander de savoir que le Père prendrait soin de lui. Il a vécu par la foi, non par la vue. Et s'est ainsi révélé être le fidèle Israélite, celui qui croit. La troisième tentation, c'est la tentation d'adorer. Lorsque Satan a ordonné à Jésus de l'adorer et de récolter les bénéfices, le Seigneur a répondu d'après Deutéronome 6, encore une fois. Il cite Deutéronome 6, verset 13, et il dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » À maintes reprises, Israël a échoué à cette épreuve et a couru après des idoles. Mais le Seigneur Jésus est le fidèle Israélite. Il est loyal au Père. Dans ce passage, on remarque également que Jésus a utilisé l'Écriture pour repousser l'adversaire, pour repousser Satan. Et l'apôtre Paul nous dit, nous exhorte à fuir le péché. 1 Corinthiens 6, verset 18, ou 1 Corinthiens 10, verset 14. Et Jacques nous dit de résister au diable. Jacques 4, verset 7. Et quand on connaît bien l'Écriture, on est prêt à pouvoir l'utiliser au moment venu en suivant l'exemple que nous laisse le Seigneur Jésus-Christ. La troisième chose que l'on apprend, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est l'agneau et le lion. Il est d'abord l'agneau de Dieu. Si on situe la tentation de Jésus dans son contexte historique, on remarque aussi un angle rédempteur historique. Chaque tentation offrait à Jésus un chemin vers la gloire sans la souffrance. S'il transformait des pierres en pain, Il aurait pu attirer Israël à lui comme un faiseur de miracles. Si Jésus sortait du temple, surtout si une grande foule était présente, il pourrait éblouir la nation avec des signes remarquables et personne ne pourrait manquer de l'adorer. Et la tentation de recevoir la gloire des nations, si Jésus s'inclinait devant Satan, allait offrir la gloire sans la souffrance. Mais à chaque fois que Jésus dit non à Satan, il dit oui à la croix. La quatrième chose, c'est qu'on voit qu'il est le lion de Dieu. Il est le vainqueur qui remporte la victoire sur Satan. La tentation est une lutte entre Jésus et Satan. Dans les premières et deuxièmes épreuves, Satan tente de tromper Jésus en offrant de la nourriture ou des connaissances qui semblent bonnes. Et dans la dernière tentation, il abandonne le déguisement. Le Seigneur Jésus résiste aux deux premières tentations en voyant à travers les ruses de Satan. Il résiste à la troisième en ordonnant à Satan de partir. Et après que Jésus résiste à l'épreuve subtile, il rejette l'assaut frontal sur sa bonté même. Satan va essayer n'importe quoi, jusqu'au subterfuge, à l'effronterie. Et le Seigneur Jésus va défaire toutes les stratégies. Il est trop fort, trop bon pour tomber. Dans l'histoire de l'humanité, dans les pages de l'Écriture, le conflit entre le bien et le mal a également des phases qui sont cachées et d'autres qui sont visibles. La plupart du temps, le tentateur est subtil. Il va nous inciter à prendre un élément de bon de la création et soit de le déifier, d'en faire un dieu, ou de le prendre au mauvais moment ou au mauvais endroit. Et parfois, le conflit est tout sauf subtil. Et nous faisons face à un conflit, un combat brutal entre le bien et le mal. Mais là, après ces trois tentations, le mal est vaincu. Satan va revenir plus tard, à des moments qui semblent opportuns, mais le Seigneur Jésus-Christ va le vaincre, encore et encore. Et finalement, il le réduira au silence, en allant à la croix et en ressuscitant dans la victoire. Et il ouvre le chemin de la victoire avec lui. Bien que le tentateur réussisse encore à nous séduire, comme il l'a séduit le Seigneur Jésus. Comme il a cherché à séduire le Seigneur Jésus. Oscar Wilde a dit un jour, « Je peux résister à tout, sauf à la tentation. » Et un chrétien a paraphrasé le modèle de prière que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné. Il dit, « Ne me conduis pas à la tentation, je peux la trouver moi-même. » La tentation, comme on a dit, commence souvent lorsque nous résistons à nos limites en tant que créatures. On veut prendre ce qu'on veut, comme si on vit sans loi donnée par Dieu. Pour beaucoup d'entre nous, la tentation est mentale ou émotionnelle plutôt que matérielle dans sa nature. Et toutes les personnes font face à des tentations mentales. Si on n'est pas tenté de s'inquiéter, on est probablement tenté par le fatalisme ou par la léthargie. Si on n'est pas tenté par l'orgueil, on est alors probablement tenté de se dévaloriser soi-même. C'est la condition humaine qui nous fait passer d'une forme d'excès à une autre. On veut souvent une connaissance qui ressemble à la connaissance de Dieu, c'est-à-dire connaître toute chose, de sorte qu'elle va supplanter notre besoin de lui. On veut savoir où vais-je vivre ? Comment ma carrière va-t-elle se dérouler ? Est-ce que je vais atteindre ce but ? Ma santé va-t-elle s'améliorer ? Salomon nous exhorte à vivre par la foi plutôt que par la connaissance. En Proverbe 3, versets 5 et 6, il dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Et Ésaïe, sur un ton un peu plus sombre, Ésaïe dit en Ésaïe 50, versets 10 et 11, « Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Vous, voici, vous tous qui allumez un feu, qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. Car c'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. » Quelqu'un a dit, souvent, « Je veux savoir des choses parce que je ne veux pas avoir besoin de Dieu. Quelque chose en moi déteste avoir besoin de lui. Je préférerais qu'il me donne une carte à suivre ou des ordres à obéir. C'est effrayant de marcher dans l'obscurité. Alors je résiste. » Et les commentaires de ces personnes conviennent à beaucoup. La foi est étroitement liée à la recherche du savoir. Il y a une quête de la connaissance qui est le fruit de l'incrédulité. Il y a une quête qui est enracinée dans la foi et qui apporte le plaisir du Père. Le message des proverbes, de passage qu'on a cité en Proverbe 3, versets 5 et 6, implique que la meilleure question n'est pas « qu'est-ce que je peux savoir ?» ou « que me réserve mon avenir ?» mais « qui est le Seigneur ?» Qui est l'Éternel en qui je dois me confier ? Et Matthieu nous dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. Il est celui qui a vaincu le péché, qui a vaincu la mort, de sorte qu'il est digne de notre confiance. Il est l'Israélite fidèle, le seul Israélite fidèle, le seul vrai homme qui a résisté à la tentation, qui est resté fidèle, qui a regardé au-delà de simplement une satisfaction physique. C'est pour cela qu'il est aussi l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et c'est en lui et en lui seul que nous devons mettre notre confiance. Il a été tenté, le Seigneur Jésus-Christ a été tenté comme nous, en toutes choses, mais sans commettre de péché. Que Dieu nous aide à méditer ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.